Sème la joie, missionnaire dans l'enfer du Vietnam. C'est le titre d'un livre que vous avez fait paraître en 2009, puis un autre sur le même thème en 2012. Paul Cara, vous êtes prêtre retraité du diocèse de Valence. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de cette vie qui n'est pas des plus banales, il faut bien le reconnaître, la vie d'un prêtre missionnaire. On va commencer par le début, si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes originaire de la ville de Valence ou du département de la Drôme ?
Non, je suis originaire de Champs-sur-l'Herbasse, né dans une famille de parents agricoles.
Donc dans la Drôme ?
Dans la Drôme, oui. Toute ma jeunesse, j'étais très heureux de vivre, sans gros soucis, quoi. Mais je vais avoir 92 ans le 23 juin de cette année.
La foi vient à quel moment dans votre vie ?
Ah ben, c'est tout gosse, j'ai jamais... Mes parents étaient croyants, étaient pratiquants, alors je n'ai jamais douté de Dieu. Bon. Comme je faisais enfant de cœur, j'aimais bien faire enfant de cœur le matin avant d'aller à l'école. J'aimais bien aller à l'église, j'aimais bien prier, comme un gosse, quoi.
Vous devenez prêtre à quel âge ?
Ouais, c'est tard, quoi. Je suis en 48.
Vous avez 27 ans.
27 ans, oui. Parce que j'ai circulé beaucoup avant dans le monde, à cause de la guerre.
Comment vous avez vécu, vous, cette guerre de l'intérieur quand vous étiez dans le séminaire ?
On n'était pas en zone occupée par les Allemands.
Oui.
On se disait quand même, on n'est pas occupé. Il n'y a pas de soldats allemands chez nous, c'est déjà pas mal.
C'est déjà bien, oui.
Mais pour cette époque-là, quoi. Parce qu'on ne voyait pas plus loin que son nez, quoi. On ne voyait pas. Et voici qu'en 41, au mois de novembre, j'ai fait les chantiers de jeunesse.
Qu'est-ce que c'est, les chantiers de jeunesse ?
Jeunesse, c'est-à-dire, c'était comme on ne pouvait pas avoir une armée, on n'avait pas le droit, et on avait le droit de prendre des jeunes pour travailler, pour les former, quoi. Nos dirigeants, c'était tous des chasseurs alpins. C'est des officiers qui étaient démobilisés et qui avaient pris en charge ce camp-là. Alors j'étais heureux comme tout, parce qu'en 1941, il y a beaucoup de neige dans le Jura, et c'est là que j'ai appris à faire du ski. J'étais heureux comme tout, et bien sûr, on n'avait pas grand-chose à manger, mais moi, je connaissais pas la neige ni rien. Et puis en 1943, il y a le STO. On demande à tous les jeunes qui ont 20, 21 ans, 22 ans, de partir en Allemagne pour remplacer les prisonniers. Ils prenaient beaucoup des travailleurs dans les usines françaises, pour remplacer les Allemands qui partaient sur tous les fronts, quoi. Et puis après, ils ont vu qu'il y avait passé de monde. Ils prenaient tous les jeunes de l'Europe entière.
Le STO, c'est le service du travail obligatoire. Et donc, ils ont réquisitionné des jeunes d'abord dans les autres pays européens. Puis petit à petit, ils sont venus les chercher en France.
On peut les chercher en France.
Est-ce que vous partez ?
Alors moi, je ne voulais pas partir. Et puis après, l'évêque a demandé si vous êtes courageux, si vous voulez partir avec eux. Partez, quoi. On était trois prêtres à partir, trois séminaristes à partir, quoi. Donc, trois sur une vingtaine, quoi.
Donc là, vous voilà parti pour l'Allemagne.
Oui, parti pour l'Allemagne, oui. On s'est trouvé seul avec des Ukrainiens, des Lituaniens, des Tchèques, des Slovaques, des Russes, tous les jeunes des pays qui s'occupaient. Et là, on travaillait comme des esclaves, c'est ça le problème. 60 heures de travail, décharger des wagons, jour et nuit, on volait. Pour se nourrir, quoi. Mais il fallait pas se faire prendre, parce que, de temps en temps, s'il prenait quelqu'un, il le fusillait, quoi. Alors, il avait des cartes placardées.
Vous avez vu ça, vous avez vécu aussi ça.
Oui, ça. Ben, ça a été assez dur, parce qu'il y avait de la neige, de la boue, tout ça. Et les Molotovs, les camions russes, amenaient des munitions, amenaient du ravitaillement, amenaient des hommes sur le front. Et nous, qu'on disait, à l'arrière du front, interdit de nous prendre. On sait bien qu'on a marché un mois à pied, dans la boue, dans la neige. Et puis ceux qui chargeaient de nettoyer la région, c'était des Mongols. C'est ça qui nous faisait si peur, parce que c'était des soldats qui tuaient, qui violaient, comme des bandes de pillards, vous savez. C'était, et on risquait la vie pour rien. Il y en a qui ont été tués bêtement comme ça, parce qu'on mourait de faim. Personne ne nous ravitaillait. Il était à l'arrière, mais il ne nous donnait rien, quoi, l'armée rouge. Ça a été assez dur, quoi. Après, alors, ils nous ont envoyés en Ukraine.
On est en quelle année, là ?
En 45.
Ah,
c'était en janvier qu'on a été pris, et en mars, on est parti en Ukraine, quoi. 100 personnes dans un wagon de bestiaux, quoi, une centaine de gens. On ne pouvait pas même se remuer dedans. Mais ça fait rien, on était content d'être là parce qu'on s'est dit, on s'en fout du front, puis et puis là, on est resté pendant jusqu'en juillet.
Vous êtes en juillet, c'est-à-dire que finalement, quelques mois après l'armistice et la capitulation des Allemands, vous êtes toujours là-bas du côté de l'Ukraine.
Oui. C'était le 8 mai, je crois, la fin de la guerre.
Oui, c'est le 8 mai 1945.
Et bien là-bas, c'était le 9, ils ont pété, parce que les Russes ont pété un jour après, ils avaient essayé après. Alors c'est le 9, on était en Russie ce moment-là.
Donc, juillet 1945. Là, vous revenez en France.
En France.
Vous n'êtes toujours pas prêtre.
Non, je n'étais pas prêtre. Mais j'ai hésité à ce moment-là. J'ai dit, est-ce que je m'en fais prêtre ou je me marie, je sais pas. J'étais déboussolé, quoi. Parce que tellement on avait vu de guerre, de mort, tout ça. Alors j'ai hésité, j'ai dit, puis j'ai fait des retraites, tout ça. Puis...
Donc, vous avez fait des retraites, vous êtes à nouveau rapproché de Dieu, à ce moment-là.
Oui, essayé. Et puis là, c'est là que j'ai vu ma vocation missionnaire. J'avais jamais pensé avant. J'avais pensé être bon curé de campagne ou de France et tout. Alors je voulais aller en Mongolie. Non, mais je me suis dit, avec ces gens-là...
Il y aurait du travail.
Il y aurait du travail à faire, quoi.
Donc missionnaire chez les Mongols.
Chez les Mongols.
Vous vouliez aller voir les Mongols pour finalement les évangéliser.
Oui, puis j'ai dit, tiens, c'est vraiment des barbares, alors. J'ai mis ma vocation à ce moment-là. Alors, et puis on me dit, ben, demande aux missions étrangères, je ne connaissais pas ça. Alors je demande aux missions étrangères. On me dit, oui, allez, viens vite, on a pas de problème. Nous, ça nous a interdit de rester en France. Alors, j'étais tout content, puis je demande à l'évêque, et l'évêque me dit non. Parce qu'écoute, t'as fait toutes les études là, maintenant tu continues à faire tes études, et puis on verra ça après. Alors, j'étais un peu furieux, j'ai dit, mais quand même. Et puis, alors après, j'étais en 48, je suis prêtre.
Vous êtes ordonné en 48?
48, oui. On était 19 prêtres. Qu'est-ce que j'ai pris? À ce moment-là, j'étais nommé vicaire à la Motte-Chalancon. Alors là, j'étais content parce que j'avais une grosse moto, je circulais dans les montagnes de partout, et puis je pouvais partir, puis au bout de deux ans, je suis parti, quoi.
Vous arrivez aux missions étrangères, donc à Paris.
Je pouvais faire un an de stage. On ne savait pas où on était nommé, c'était comme dans l'armée. On me nomme à Hanoï. Oh là là, j'étais furieux.
Vous vouliez pas aller là-bas?
C'était la guerre. Et moi, j'avais tellement peur de la guerre, j'avais tellement peur des armes, que j'ai dit, pourquoi on me nomme là?
Prêtre missionnaire du diocèse de Valence, dans une première partie, aborder votre parcours. Vous avez traversé la Seconde Guerre mondiale, vous avez beaucoup voyagé, vous avez été en Allemagne, en Ukraine, vous avez côtoyé énormément de populations, et notamment les Mongols qui vous ont profondément marqué par leur violence. Ça vous a donné envie, en 1945, d'évangéliser, de retrouver, de vous rapprocher de Dieu. Vous avez fait plusieurs retraites, et puis finalement vous êtes ordonné prêtre en 1948, vous rejoignez les missionnaires, et là vous arrivez au Vietnam, et c'est ce que vous êtes en train de nous raconter. Vous êtes bouleversé, saisi par cette culture.
Oui. Et puis arrivé à Hanoï, je ne suis pas les pères, et immédiatement envoyé en pleine brousse, dans l'état du fleuve Rouge, à 30-40 km de Hanoï, mais à la limite entre les zones Viet Minh et les zones de l'armée française.
Donc au départ, vous n'êtes pas content d'y être, mais une fois arrivé, vous commencez à vous dire que finalement, c'est pas si mal, même si vous êtes en pleine guerre du Vietnam.
Et puis les gens étaient tellement gentils, tellement... autour de nous, tout ça. Je commençais à apprendre la langue, c'était pas facile, parce que je pouvais pas confesser, je pouvais pas... Mais ce qu'il y avait de bien, si je pouvais dire la messe, parce que la messe, c'était en latin.
Ouais, vous avez vécu le début du Concile Vatican II au Vietnam.
Oui.
Et il vous arrive quand même au Vietnam quelque chose de particulier, qui vous a d'ailleurs fait écrire deux livres après.
Oui, alors là, c'est différent. Alors, j'ai resté 6 ans avec les Viet Minh. Mais à ce moment-là, ils étaient encore très staliniens, quoi. C'était encore très dur. L'évêque de Hanoï, c'était Monseigneur Ching Nguyen. Il m'a dit, ben, écoute, j'ai personne d'autre, tu seras curé de la paroisse, mais je dis, je sais à peine confesser, je sais à peine, c'est merveilleux le vietnamien, parce qu'ils n'ont plus les caractères. Alors ils ont l'écriture latine, les 25 lettres, alors c'est facile à lire, facile à écrire, et tous les mots sont invariables, mais c'est, il y a 6 émissions de voix.
6 émissions de voix pour la même orthographe.
Même orthographe, mais des accents différents, quoi.
Donc selon le ton que vous allez mettre, ça n'aura pas le même sens.
Pas le même sens, oui, oui.
Donc du coup, vos sermons, de temps en temps, faisaient rire un peu vos fidèles.
Beaucoup, oui.
Beaucoup.
Et moi, j'étais content. Alors, je disais, ben ça va. Ils rient, ils sont contents. Ils n'ont pas peur de moi. On avait toujours les droits de dire la messe dans notre église, de faire les baptêmes, les enterrements, les mariages, on avait toujours le droit. Mais on n'avait pas le droit de faire des catéchismes, on n'avait pas le droit de faire des réunions sans la permission des autorités locales.
Il fallait que vous demandiez l'autorisation.
Et puis il fallait que la police soit là dans la réunion.
D'accord,
quoi.
Alors, ah oui. Systématiquement.
C'est systématiquement, quoi. Je vivais avec les catholiques, et les catholiques étaient très... Ils se réfectuaient pour moi, les catholiques. Tous les ans, ils en expulsaient quelques-uns, et moi j'ai été expulsé l'un des derniers.
En février 60, vous êtes expulsé du Vietnam.
Oui, oui, oui. Oui, mais ça, c'est à cause des accords de Genève.
Pourquoi vous revenez?
Ah, ben, c'était ma... Moi, j'étais tellement content de vivre au Vietnam, je ne pouvais pas vivre ailleurs. Et puis, donc, j'ai oublié un service supérieur. Parce que moi, j'ai toujours oublié un supérieur, malgré que des fois, je ne suis pas content.
Finalement, enfin, on pourra en reparler un peu plus tard, mais les choix, vous les adoptez à contre-cœur, et puis il se passe quelque chose pour vous à chaque fois. Et
oui, chaque fois, oui, oui, c'est merveilleux pour ma Bible, quoi, parce que je suis encore en vie maintenant, c'est à cause de ça, quoi.
Vous voulez retour au Vietnam, en tout cas.
Oui, alors je fais un air, je remplace un père français qui était dans des plantations de caoutchouc au sud du Vietnam, près de Thaï Ninh, la province de Thaï Ninh, qui est près du Cambodge, où ici il y a surtout la religion caoudaïste. Et puis après, en 62, je suis nommé alors à la frontière du Cambodge du Laos, à Kon Tum, dans la forêt vierge. Et à ce moment-là, il y a eu au sud beaucoup de conversions.
De bouddhistes vers catholiques?
Oui, mais beaucoup, beaucoup. Et c'était merveilleux parce que au début, il n'y a que quelques catholiques, quelques centaines. Et 10 ans après, il y avait sur 2000 habitants, la moitié de la population était catholique.
Vous avez vécu au milieu des obus quand même une grande partie de votre vie.
Eh bien oui, c'est ça. Mais après, j'avais plus peur. J'ai jamais eu peur. J'avais peur sur le coup, puis après, 5 minutes après, j'étais content. Alors, de temps en temps, il y avait des infiltrations. Des fois, j'ai été arrêté par les Vietcong, emmené en forêt. Et en 72, à ce moment-là, plusieurs divisions Vietcong sont arrivées avec des chars dans la région. On est prisonniers quand on est ramassé, puis ils m'emmènent en forêt. On a marché, je pouvais plus marcher, puis bon, on reste là. Parce qu'il y avait une petite fille qui m'avait été amenée en forêt deux jours avant, et ils m'ont dit, ben, amenez-la avec vous.
Et vous avez eu une fille à éduquer pendant 4-5 mois, comme ça?
Mais c'est elle qui nous remontait le moral.
Ah bon?
Elle chantait, elle était contente comme tout dans la forêt.
Et vous l'avez revue?
Ouh là là, oui, je l'ai revue, parce que elle m'a écrit 15 ans après, elle m'a écrit.
Vous avez pu la voir.
Il y a deux grands-enfants maintenant qui sont ingénieurs, qui sont assez grands. Oui.
À quel moment vous rentrez en France exactement?
Alors en 72, eh bien, je rentre en France.
En 1972.
Et en 73, je repars au Vietnam.
Ah oui, c'est quand même une grande histoire d'amour, parce que ça fait la troisième fois.
Oui, oui. Alors là, je suis nommé sur les hauts plateaux, mais du côté de la mer.
Vous connaissez mieux le Vietnam que la France, pratiquement?
Ben, j'aime mieux le Vietnam que la France. J'aime bien la France aussi, parce que c'est le plus beau pays du monde, la France. Tous les gens, ils sont malheureux ici, il n'y a que moi qui suis heureux. Les gens sont heureux là-bas.
Et vous aussi?
Et vous aussi,
oui. Finalement, vous êtes heureux partout, quoi.
Oui, je suis heureux de partout. Bon. Mais eux, ils sont heureux aussi, les Vietnamiens. Ils ne sont pas pessimistes comme nous. Alors là, je suis resté 2 ou 3 ans. En haut, j'avais tout construit, école, tout ça, j'ai tout perdu. Quoi. L'église, tout, on a tout perdu. Et ici, ça fait pareil, j'avais tout reconstruit en quelques mois. On construisait tout, mais bien sûr, léger, quoi. Une église, sur 15 000 habitants, j'avais 600 catholiques. 600 catholiques des différents villages, là. Et je me suis occupé d'eux pendant 3-4 ans, puis c'est tout. Et puis arrive un jour, toc, tous les hauts plateaux tombent. Il y avait que la base de notre village qui n'était pas tombée. Et j'avais plus de médicaments, tout ça, les gens me suppliaient. Alors j'ai demandé au chef de province que je connaissais bien de Quignon de me prêter un hélicoptère pour aller chercher les médicaments. Je descends à Quignon, à 80 km en hélicoptère, les hôpitaux évacués. Alors j'ai pu me rapporter un plein, j'avais préparé plein de caisses de médicaments. Et puis voilà que ce jour-là, les Vietcong rentrent dans le village, c'était fini.
Alors, le jour où vous êtes parti,
les Vietcong sont entrés.
Les Vietcong sont entrés.
Entrés, oui.
Partez 1976, vous revenez en France.
On va en France. Mais après, dès qu'il y a. J'étais le premier touriste au Vietnam Sud, en 87. Mais je suis surveillé pendant 10 ans. Alors, une fois qu'on est surveillé pendant longtemps, on sait comment faire, quoi.
On fait plus attention.
Voilà. J'ai tué personne. Alors, si j'avais tué quelqu'un, c'est normal qu'on me mette en prison. Mais quand il m'a arrêté, je dis, mais me mettre en prison, moi, je vois pas, j'ai tué personne. Je suis mieux content de vivre avec vous. Qu'est-ce que vous voulez de plus?
Donc, vous y êtes retourné en touriste en 87.
Oui, oui.
Et puis ensuite, vous y êtes retourné encore?
Oh là, une dizaine de fois, avec ma famille, tout ça, en car. On m'arrêtait de partout, mais je disais rien à personne. Je disais à ma famille, c'est merveilleux. Mais, et avec la police, je me débrouillais toujours. Oh, happy day.
Paul Kara, prêtre missionnaire du diocèse de Valence, aujourd'hui retraité, vous nous avez raconté dans ces deux premières parties d'émission votre parcours, la façon dont vous avez été ordonné prêtre, dont vous avez traversé la Seconde Guerre mondiale, la façon dont vous avez traversé la guerre du Vietnam avec les Viet Minh. Vous avez un petit peu vécu tout le temps avec des obus plus ou moins loin de vous, c'est ce que vous nous avez dit. Dans cette troisième partie, j'aimerais bien que nous abordions la foi dans votre parcours, parce que on a l'impression que vous avez toujours subi ce qui vous est arrivé. C'est-à-dire, on vous demandait d'aller là, vous n'aviez pas trop envie d'y aller, puis finalement vous y alliez, et là, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se mettent en place, comme le Vietnam par exemple, où vraiment vous étiez furieux, vous ne vouliez pas retourner là-bas parce que c'était la guerre et que vous aviez peur de la guerre. Et là, dans cette troisième partie, on pourrait peut-être parler un petit peu justement de cette foi. Comment vous regardez votre parcours?
Mon parcours?
Votre vie?
Bien, moi je n'ai pas vu de vision ni rien. Dieu m'a jamais appelé, je l'ai jamais rencontré. Si, je l'ai rencontré au fond de mon cœur, toujours. Mais j'ai toujours cru en lui, quoi. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est naturel, quoi. Il y a pas de...
Et qu'est-ce que vous dites? C'est quoi? C'est l'Esprit Saint qui fait que vous avez vécu ce que vous avez vécu?
J'en suis sûr. Et cette fois-là, eh bien, je la découvre maintenant en lisant l'Évangile. Je trouve tellement l'Évangile nouveau que comme jamais je l'ai trouvé maintenant. ça me passionne, quoi. Moi, je trouve jamais trouvé de livre plus fort que ça maintenant. Et puis les Vietnamiens m'ont appris beaucoup aussi. C'est très profond chez eux, le catholicisme, parce qu'ils ont un esprit religieux plus fort que nous, les Européens, quoi.
Pourquoi ?
Mais nous, on est rationaliste, on est cartésien et tout ça. On veut savoir, mais on raisonne trop. Tandis qu'eux, ils sont marqués par le culte des ancêtres, le confucianisme. Ils sont entourés d'esprits.
Ils vivent avec la spiritualité au quotidien.
Au quotidien, oui.
Et pas la rationalité sans arrêt.
Et oui, nous, on est trop rationalistes, quoi. J'ai jamais vu le monde aussi beau que maintenant.
Vous n'avez jamais vu le monde aussi beau que maintenant, alors qu'on entend partout le contraire dans les médias.
Oui, parce que si on prend la guerre de 14, la guerre de 39, des millions de morts, tout ça, et jusqu'à maintenant, et puis l'évolution des gens, mais les gens, quand on vient en France, le monde entier est émerveillé, quand ils viennent en France, les gens tranchés. Et tous les Français qui vont en tranchés, c'est pareil. Ils la voient mieux que... Et qui sont bien contents de revenir en congé en France.
Alors, vous, maintenant, vous êtes prêtre retraité. Vous êtes donc à Saint-Donat, dans le nord de la Drôme. Quel regard vous avez aujourd'hui sur, justement, les livres que vous avez écrits, les passages de votre vie qui sont un peu forts, quand vous discutez avec des gens plus jeunes que vous et que vous leur racontez tout ça, quelle est l'attitude de ces gens qui vous écoutent?
Si c'est des bons catholiques, ils sont contents d'écouter mes livres, quoi. Si je dis, c'est des livres d'histoire, parce que maintenant, l'évolution du Vietnam a évolué beaucoup, et puis le monde évolue beaucoup aussi, quoi. Alors, beaucoup de gens sont contents de les lire, quoi. Surtout les personnes âgées, parce que les jeunes, ils ont pas l'habitude de lire, les jeunes. Ils ont toute l'informatique, tout ça,
Les livres sont numériques maintenant.
Oui, oui, alors.
Mais il y en a encore beaucoup qui sont attachés.
Beaucoup, même qui sont jeunes, qui font des études, ils sont attachés aux livres. Oui. Tous ceux qui ont des livres.
À quoi est-ce que vous êtes attaché, vous, Paul Carat? Est-ce que la joie, on peut dire que c'est quelque chose qui vous a accompagné tout au long de votre vie, malgré, de temps en temps, un obus qui claque à quelques mètres de vous, cinq minutes après, vous étiez joyeux, c'est ce que vous disiez?
Oui, parce que je n'ai pas... Non, c'est la CIOC qui m'a fait faire ça, parce que vous voyez les pauvres qui travaillaient dans les usines, tout ça, c'était dur, tout ça, mais contents de vivre, puis contents d'exprimer leur foi, c'est ça. Puis, exprimer leur foi naturellement au milieu des gens qui sont pas comme... Et comme on disait, un prêtre missionnaire qui a fait un livre, nous, Dieu aime les païens. Mais nous, on doit les aimer aussi. Aimer tout le monde, tous ceux qui sont autour de nous. On ne peut pas faire de distinction. On n'a pas besoin de prêcher. Des fois, il ne faut pas prêcher parce que personne ne nous entendrait. Mais il faut simplement vivre naturellement, ou mieux avec des autres, être heureux. Et bien, on rend les gens heureux. Et on leur dit, mais écoutez, vous êtes tristes. Mais... Alors, ils viennent m'expliquer pourquoi ils sont tristes. Mais je dis, vous ne devez pas être tristes, votre âge. J'essaie toujours de leur remonter le moral à tout ce que je rencontre. Mais c'est naturel, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas faire des grands discours. C'est au contraire, il faut rester avec les gens, n'importe qui, n'importe quoi, aller avec n'importe. Et puis se trouver bien au milieu des gens, quoi.
Et à vous, Paul Carat, qui remonte le moral?
Oui, c'est l'Esprit Saint, je pense, parce que j'ai eu encore deux accidents de voiture ces temps-ci. Eh bien, j'ai rien eu. Ma voiture était bousillée, deux voitures, et puis je suis encore vivant. Dans ma main, j'avais la croix. Je me suis dit comment je m'en suis sorti, je ne sais pas.
Paul Carat, merci beaucoup.